17h sur Radio Orient, merci de nous rejoindre. Le point de l'actualité, Nadia Bencher. À la une de cette édition, Israël brandit de nouveau la menace de frapper la banlieue sud de Beyrouth. Il dit avoir l'aval de Washington si le Hezbollah chiite poursuit ses attaques. Sur le terrain, le bilan des frappes israéliennes s'alourdit. On compte près de 10 tués et 127 blessés. Benjamin Netanyahou menace le régime iranien. Le premier ministre israélien affirme que son pays œuvrera à faire disparaître ce qu'il a qualifié de régime de terreur. Dans notre dossier, Bruxelles serre la vis en matière de migration. Les 27 se sont accordés sur une réforme destinée à faciliter les expulsions et à permettre l'installation de centres de retour hors de l'Union européenne. Violence après le sacre du PSG, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez assure que le dispositif sécuritaire mis en place était extrêmement solide. Nous l'entendrons tout à l'heure. Et puis, la hausse du SMIC de 2,4% en France sur fond d'un inflation et inquiétude persistante sur le pouvoir d'achat. Dans cette édition, l'analyse de l'économiste Mathieu Plane. Bonjour. La trêve obtenue par Donald Trump n'a pas tenu longtemps. L'armée israélienne a lancé plusieurs opérations ces dernières 24 heures. Ce mardi, une frappe a tué un père et ses deux du Liban. Selon l'agence de presse libanaise, leur voiture a été visée par un drone près du village frontalier de Qalaya. Et puis, des opérations israéliennes menées lundi sur la ville de Tyr ont fait 4 morts et 127 blessés, selon le ministère de la Santé libanais. Parmi les victimes figurent 39 membres du personnel de l'hôpital Jabal Amal, gravement endommagés par les bombardements. Israël a indiqué cet après-midi avoir reçu l'aval américain pour frapper la banlieue sud de Beyrouth si le Hezbollah continuait ses attaques sur son territoire. L'armée israélienne, qui a appelé en fin de matinée la population libanaise à évacuer la ville de Nabatieh, elle a prévenu qu'elle comptait mener des attaques contre le Hezbollah dans cette zone. La France hausse le ton à la poursuite des opérations israéliennes au Liban. Jean-Noël Barrot estime que rien ne peut justifier une occupation prolongée du territoire libanais. Le chef de la diplomatie française affirme également que le Liban ne doit pas devenir la victime des difficultés rencontrées dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis. Au plan diplomatique, Israël et le Liban ont entamé à Washington un quatrième cycle des directs sous médiation américaine. Les ambassadeurs d'Israël et du Liban ont été reçus ce mardi au département d'État. Les discussions doivent durer 2 jours. Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël contribuera à faire disparaître ce qu'il qualifie de régime de terreur iranien. Lors de l'intronisation du nouveau chef du Mossad, le premier ministre israélien a assuré que l'Iran ne pourrait plus menacer Israël avec des armes nucléaires et des milliers de missiles. L'Iran qui prépare des funérailles nationales de 3 jours pour l'ancien guide suprême Ali Khamenei, tué lors des premières frappes israélo-américaines du 28 février. Les cérémonies dont la date reste à préciser, doivent se tenir à Téhéran ainsi que dans les villes saintes de Qom et Mashhad où il sera inhumé. Dans le reste de l'actualité, au moins 18 personnes ont été tuées en Ukraine dans une attaque russe massive menée avec 656 drones et 73 missiles. 6 morts et 66 blessés sont recensés à Kiev, selon le maire de la ville, à Dnipro, dans l'est du pays. Le bilan s'est alourdi à 12 morts. Les opérations de secours se poursuivent. L'ONU alerte sur un risque élevé de retour du phénomène El Niño dans les prochains mois. Selon l'Organisation météorologique mondiale, la probabilité d'un épisode El Niño atteint 80% entre juin et août et dépasse 90% jusqu'en novembre. Ce phénomène pourrait accentuer les sécheresses, les fortes pluies et les vagues de chaleur dans plusieurs régions du monde. En France, les députés ont adopté à l'unanimité une proposition de loi visant à mieux protéger les enfants contre les violences en milieu scolaire et périscolaire. Le texte prévoit un renforcement des contrôles des personnels au contact des mineurs et une surveillance accrue des établissements privés. Il intervient après plusieurs scandales de violences révélés dans des écoles, notamment à Paris et à l'institution Notre-Dame de Bétharram. Le désaccord est confirmé entre députés et sénateurs sur la réforme de la fin de vie. Réunis en commission mixte paritaire, les parlementaires n'ont pas réussi à trouver un compromis sur le texte créant un droit à l'aide à mourir. L'Assemblée nationale devrait donc avoir le dernier mot lors d'un vote définitif prévu le 15 juillet. Et puis un mot de sport pour finir tennis. À 44 ans, Serena Williams officialise son retour à la compétition. L'ancienne numéro 1 mondiale et détentrice de 23 titres du Grand Chelem disputera le tournoi de double du Queen's à Londres la semaine prochaine. Absente du circuit depuis l'US Open 2022, l'Américaine signe un retour très attendu qui pourrait marquer la première étape vers une reprise plus large de sa carrière. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. Les eurodéputés et les États européens ont trouvé un accord hier pour durcir la politique migratoire de l'Union européenne. À la clé, la possibilité de créer des centres à l'étranger ou renvoyer les migrants illégaux. Vous nous faites le point sur la situation, Nawal Hamouchi.
Oui, vous l'avez dit, Nadia. La loi prévoit une série de mesures donc pour accélérer les expulsions et permettre aux États qu'ils souhaitent d'installer des sortes de centres en dehors de l'Europe pour y renvoyer des déboutés du droit d'asile. Le compromis, il a été trouvé hier dans la soirée et il devrait être voté une dernière fois par le Parlement européen et par les États membres ces prochaines semaines. Ce n'est donc pas fini. Certains pays européens comme le Danemark, comme l'Autriche ou encore l'Allemagne commencent déjà à imaginer ou installer ces centres, par exemple au Rwanda, en Angouda ou même en Ouzbékistan. L'idée de créer ces hubs de retour sans lien avec le pays d'origine des migrants n'est pas nouvelle. Elle a déjà été testée par l'Italie de Giorgia Meloni en Albanie avant même l'examen de leur demande d'asile, contrairement à ce que prévoit la nouvelle loi européenne. Mais le centre en Albanie est longtemps resté vide en raison d'une série de contestations judiciaires. Et il faudra du temps, beaucoup de temps même, à ces États pour développer de tels projets en accord avec les pays tiers qui les accueilleraient. La France s'est déjà montrée sceptique sur de tels centres et l'Espagne s'y est opposée, y voyant une menace pour le respect des droits humains.
Merci Nawal El Hamouchi pour ces précisions. Le Premier ministre Sébastien Lecornu dénonce une inversion des valeurs après les violences survenues en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Devant l'Assemblée nationale, il a rejeté toute mise en cause des forces de l'ordre dans ces débordements et a réaffirmé son soutien inconditionnel aux policiers et aux gendarmes. Intervenant un peu plus tôt à l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a pour sa part rappeler que le dispositif mis en place était extrêmement solide. On l'écoute.
Vous avez raison, effectivement, on a assisté à des scènes dans la capitale, dans la nuit de samedi à dimanche. Vous avez raison de souligner qu'il y a eu aussi ces scènes en province. L'an dernier, pour la même finale, 46 départements avaient été concernés. Cette fois-ci, c'était 62 départements où il y a eu des incidents en marge des festivités pour célébrer la victoire du Paris Saint-Germain. Ce que je veux vous dire, Madame la députée, c'est contrairement à ce qu'on a pu dire ou entendre, nous avions un dispositif extrêmement solide, extrêmement vigoureux, parce que nous savions qu'il y aurait peut-être des débordements. Débordements qui ont toujours été qualifiés par le ministre de l'Intérieur qui vous parle, comme étant des violences urbaines et des émeutes urbaines. On n'a jamais triché sur les mots. Débordement, ça a un sens. Violences urbaines, émeutes urbaines. C'est d'ailleurs ce que je disais devant la commission des lois l'année dernière, quand j'avais déjà été interrogé pour la première finale. Et il y a eu 891 interpellations, 720 gardes à vue, Madame la députée. Et évidemment, comme vous, j'en remercie les forces de sécurité intérieure qui avaient des consignes de fermeté absolue. Et cette fermeté, ça a été la réponse qui a été apportée. Chaque fois qu'il y a eu des incidents, des dégradations, quand le périph' a été bloqué, quand il y a eu des tentatives de pillage, il y a eu des interventions des forces de l'ordre. Et ça, c'est la réponse de la République qui est une réponse, Madame la députée, de grande fermeté. Et c'est la réponse que nous apportons systématiquement dans ce type d'événement.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui s'exprimait à l'Assemblée nationale. Le SMIC a augmenté de 2,4% ce lundi 1er juin, une revalorisation automatique dans un contexte économique toujours incertain, marqué par une inflation qui repart à la hausse et des inquiétudes persistantes sur le pouvoir d'achat. Environ 2,2 millions de salariés en France, soit 12,4% des actifs, sont aujourd'hui rémunérés au niveau du SMIC. Cette hausse hausse révèle-t-elle un problème plus profond de progression salariale dans notre économie? Nous avons posé la question à Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE.
Il y a un problème qui est, à mon avis, assez évident. C'est que, donc, d'abord, que le SMIC soit indexé, c'est plutôt une bonne chose, en réalité, parce que ça permet de protéger les salariés les plus modestes. Donc, c'est quand même important de garantir un pouvoir d'achat, surtout quand on dit qu'il faut faire attention et valoriser le travail. Bon, ben, voilà. Donc, ça, c'est quand même un point essentiel. En revanche, qu'on voit, c'est qu'au cours du temps, on a plutôt une compression des grilles de salaire. C'est-à-dire que, au fond, beaucoup de salariés se retrouvent entre le SMIC et 1,5 SMIC. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les progressions de carrière sont assez limitées. Et donc, la question aujourd'hui, à mon avis, hein, pour l'économie française, elle n'est pas seulement à savoir est-ce qu'il faut revaloriser le SMIC. Quand on se compare par rapport aux autres pays, le salaire minimum français, par rapport au niveau de vie, est plutôt correct. Et ça, il faut quand même le rappeler. Par contre, ce qui n'est pas correct, c'est que le salaire médian, donc celui qui partage la population en deux, est plus bas que dans les autres pays. C'est-à-dire que la progression de carrière entre le SMIC et le salaire médian est relativement faible. Donc ça veut dire que, quelque part, les gens restent trop longtemps proches du SMIC ou avec des faibles progressions de carrière. Et donc ça pose le problème du pouvoir d'achat, de comment on valorise l'expérience et la qualification. Ça pose le problème de la montée en gamme, c'est-à-dire que forcément, du coup, il y a aussi peut-être moins, j'allais dire, de progression, y compris dans la valeur ajoutée qu'on génère, etc., y compris dans les questions industrielles. C'est comment on fait pour mieux valoriser le travail et comment on monte en gamme aussi sur un certain nombre de secteurs. Donc voilà, ça pose quand même un certain nombre de questions lié à notre système, en fait, ce qu'on appelle socio-fiscal, c'est à la fois la fiscalité très particulière sur le coût du travail en France et ces mécanismes d'indexation du SMIC et pas des autres salaires.
Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE, il est l'invité de Nawal El Amouchi dans Grand Angle ce soir après le flash de 18h. C'est la fin de cette édition, merci d'y avoir prêté attention, merci à Mohamed El Bezri pour la mise en onde. Excellente suite de programme sur Radio Orient.